Vous écoutez
RMC.
Jeudi 14 mai,
l'info sur RMC.
Il est 6h juste, à la seconde près. Céline Kallmann est là pour les infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le laboratoire français Sanofi fait savoir que s'il trouve un vaccin contre le Covid-19, les Américains seront les premiers servis, annonce légitime pour le patron, mais qui ne passe pas du côté des syndicats. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux privés ne sont finalement pas interdits. L'avis du Conseil constitutionnel contraint le gouvernement à retirer cette mesure. Rémi nous explique tout dans ce journal. Et puis près d'1,5 milliard d'euros doit être injecté dans le secteur du tourisme. Édouard Philippe dévoile ce matin un plan colossal. Bienvenue à tous sur RMC. C'est un laboratoire français, mais si demain il trouve un vaccin contre le Covid-19, Sanofi en fera profiter d'abord les Américains. C'est ce qu'a indiqué hier son directeur général Paul Hudson à l'agence Bloomberg. C'est une histoire de gros sous. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis.
Ce sont les États-Unis qui ont payé le plus cher et le plus tôt, alors ce sont eux qui auront le vaccin en premier. C'est tout simple, c'est l'explication donnée par le directeur général du laboratoire Sanofi, un labo pharmaceutique français, mais sur un marché mondial. Et son directeur général, le britannique Paul Hudson, explique que les États-Unis ont été les premiers à participer avec eux au financement de la recherche pour un vaccin. C'était en février, et l'accord prévoyait que les États-Unis seraient alors les premiers servis. Plusieurs bémols quand même. D'abord, le patron de Sanofi précise que ce ne sera qu'une avance de quelques jours ou quelques semaines sur le reste du monde. Et puis, rien ne dit que c'est Sanofi qui trouvera un vaccin en premier. Plus d'une centaine de projets de vaccins sont en cours de développement à travers le monde. Sanofi commence les essais sur l'homme cet automne pour une commercialisation du vaccin à l'été 2021. D'autres laboratoires ont déjà commencé les essais sur des êtres humains.
Et hier, l'Organisation mondiale de la santé a averti que le virus pourrait ne jamais disparaître et devenir l'un de ceux avec lesquels l'humanité doit apprendre à vivre. Ce matin, on en sait un peu plus justement sur le nombre de Français contaminés par le coronavirus, 4,4% au niveau national, moins de 10% en Île-de-France et dans le Grand Est, les deux régions les plus touchées. Chiffre d'une nouvelle étude de l'Institut Pasteur, paru hier dans la revue scientifique Science, et qui a mis à jour donc les chiffres donnés avant le déconfinement. Le déconfinement justement, et cette information donnée hier soir par nos confrères du Parisien que nous vous confirmons ce matin, si vous avez envie de vous réunir à 10, 20, 30 personnes chez vous, eh bien ce n'est pas interdit. En fait, le Conseil constitutionnel, Rémi Inck, a retoqué cet aspect de la loi du plan d'urgence sanitaire.
Oui, cette mesure a été pourtant annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale le 28 avril dernier.
Son général, il nous faut éviter les rassemblements qui sont autant d'occasions de propagation du virus. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront donc limités à 10 personnes.
Voilà, ça c'était la volonté du Premier ministre. Mais dans sa décision sur l'état d'urgence sanitaire, publiée mardi, le Conseil constitutionnel a précisé cette interdiction. Les réunions de plus de 10 personnes peuvent être interdites. Oui, mais seulement sur la voie publique et dans les lieux publics. Résultat, dans la loi qui précise les modalités du déconfinement, aucune mention de cette interdiction dans un lieu privé. Il est donc possible de se retrouver avec un groupe de plus de 10 personnes dans un appartement ou une maison. Alors avant d'appeler dès ce matin vos amis pour leur proposer une grande fête ce soir, pas très malin, sachez que c'est fortement déconseillé. Les risques de propagation du virus sont évidents. Le ministère de l'Intérieur en appelle d'ailleurs au civisme et à la responsabilité des Français.
Merci Rémi. Édouard Philippe qui va annoncer ce matin un plan de soutien historique au secteur mis au tapis par le virus, le tourisme. L'enjeu économique est immense. Le plan devrait avoisiner les 1,5 milliard d'euros. Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, ne demande qu'à redémarrer, mais réclame donc une aide sans précédent.
Il faut faire redémarrer un secteur vital pour l'économie française. Aujourd'hui, ce secteur est complètement à l'arrêt. Le redémarrage ne se fera pas simplement parce qu'on va faire tourner et mettre la clé dans le moteur et que ça va redémarrer comme avant. Non, ça va demander beaucoup de temps. Nous sommes des entrepreneurs. Notre métier, c'est l'accueil, le service. Nous sommes prêts à y aller. Mais encore faut-il que le gouvernement, après nous avoir imposé cette fermeture, eh bien, nous donne les moyens de redémarrer.
Et coup dur pour les galeries Lafayette et le Printemps qui vont rester fermés au moins jusqu'au 10 juillet, ainsi que les grands centres commerciaux de Beaugrenelle et des Halles à Paris. Ce sont évidemment des milliers de salariés privés d'emploi. Eux étaient très contents d'avoir repris le travail, mais lundi, ils ont dû stopper net. L'usine Renault de Sandouville en Seine-Maritime a été mise à l'arrêt suite à une décision de justice. Saisie par la CGT, le tribunal judiciaire du Havre a condamné Renault à suspendre ses activités puisque l'entreprise n'assure pas la sécurité des travailleurs. C'est ce qui est dit incompréhensible pour de nombreux salariés. Thomas Chupin.
Oui, il y a même un peu de colère chez Jackie.
Moi, j'ai plus peur d'aller à Auchan que d'aller au travail.
Il est chef d'équipe à Sandouville, 18 caristes sous ses ordres, et pour lui, il n'y avait aucun danger.
Premier truc qu'on faisait, c'était il y avait du gel hydroalcoolique. Deuxièmement, mec de la sécurité qui nous donnait 4 masques. 2 masques chirurgicaux, 2 masques FFP2. On avait un troisième point, c'était prise de température.
Mesure drastique aussi en salle de pause et sur les postes de travail. Sophie non plus ne comprend pas cette fermeture. Elle est intérimaire et ne travaille plus depuis le début du confinement. Mars.
Je suis toute seule avec mes 2 enfants. Mon grand travaille aussi en intérim. On se retrouve toujours à 2 au chômage. Je touche 800 euros par mois. Si on travaille, c'est 1600 euros. Donc là, ça commence à devenir très dur.
Plusieurs syndicats reprennent ces arguments sociaux, accusant la CGT d'être allée trop loin en saisissant la justice. Gérard Lecor de la CGT Seine-Maritime leur répond.
C'est pas nous qui empêchons personne de travailler. Il y a des procédures qu'aujourd'hui, il y a une sous-estimation du risque vis-à-vis du Covid. Et ben, on voit aujourd'hui que sous la pression du patronat, il y a certaines organisations syndicales qui ont effectivement une posture qui nous surprenne.
Et la CGT menace à présent un autre site, celui de Cléon, également en Seine-Maritime, site qui reçoit plus de 3500 travailleurs.
Le gouvernement va renforcer le contrôle sur les demandes de chômage partiel, objectif détecter les fraudes ou les erreurs. À retenir aussi dans l'actualité, les personnels hospitaliers de 40 départements qui vont recevoir le montant maximal de la prime promise par le gouvernement, 1500 euros net. Ces départements sont essentiellement ceux du nord et de l'est du pays où se situent les régions les plus durement touchées par le Covid-19. Les dispositifs mis en place pour venir en aide aux victimes de violences pendant le confinement vont se poursuivre. Au-delà, l'accueil dans les pharmacies ou les permanences dans les centres commerciaux, annonce de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Depuis hier matin, vous le savez, les premières plages sont à nouveau accessibles, notamment en Loire-Atlantique, à La Baule et à Pornichet. Un vrai régal pour les habitants qui ont regardé le sable de loin pendant 2 mois. Anaïs Denet et Marco Bédé.
Fouler le sable, se diriger timidement vers les vagues et enfin...
T'as mis les pieds dans l'eau ? Elle est comment ?
Elle est froide.
13 degrés qui n'arrêtent pas Isabelle et Pascal, les deux copines, tout de même en combinaison, se jettent à la mer.
Ça faisait 2 mois qu'on attendait ça et c'est indescriptible. Vraiment pouvoir remarcher dans l'eau, j'étais hilar pendant les 30 premières secondes comme une gamine de 5 ans qui arrive sur la plage. Quoi.
L'attente et enfin le bonheur. Ça fait partie de notre vie depuis plusieurs années et ça nous manquait.
Baignades et balades sont autorisées, mais pas de pique-nique ni de bronzette. La police y veillera, assure le maire de Pornichet, Jean-Claude Pelter.
Bah, les policiers, ils vont faire des rondes régulières. Donc il suffit de passer soit en vélo, soit en voiture pour voir si le comportement sur la plage... Regardez, là j'ai un exemple en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde. On voit bien que les distances sont respectées, le policier il dit rien. Il va voir un attroupement, là il sortira le mégaphone, il rappellera les règles.
La ville de Pornichet s'appuiera également sur des webcams pour surveiller les plages en temps réel.
Voilà pour les chanceux qui habitent au bord de la plage.
Bien, merci. Oui, les plages rouvertes. Racontez-nous comment ça s'est passé, 3216rmc.fr. Enfin, certaines plages rouvertes, sous conditions. Allez-y, racontez-nous d'ailleurs. Vous habitez sur le littoral. Comment ça se passe? J'en parlais tout à l'heure. Je lis sur les réseaux sociaux. J'entends, j'en ai assez qu'un gouvernement choisisse ma vie, ce que j'ai le droit de faire. Il y en a beaucoup qui en ont assez qui en ont eu assez du confinement, mais qui en ont assez maintenant aussi du déconfinement. Qui voudrait vivre plus librement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, allez-y, 3216rmc.fr, on en parle. Vous avez vu la CGT qui est... Et que veut la CGT? C'est mettre tout le monde au chômage ou... Je ne comprends pas très bien. Enfin bon, ça c'est un autre débat, on y reviendra évidemment si vous le souhaitez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Beaucoup, beaucoup, la course au vaccin. On va beaucoup, beaucoup en parler. L'histoire de Sanofi, est-ce que ça vous fait réagir ou pas? Vous me dites aussi, nous aurons toutes les précisions ce matin et tout à l'heure à 7h40, je serai avec le professeur qui s'appelle Xavier Lescure, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Voilà, ces sujets. D'autres, tiens, j'ai vu que Jean-Michel Aulas avait écrit à tous les députés, il ne désarme pas
et tous les
Jean-Michel
sénateurs.
Aulas. Dites-moi, mais c'est une, ça devient un naufrage, Jean-Michel Aulas.
Bientôt,
c'est
bientôt la Cour européenne des droits de l'homme.
Bien sûr, pourquoi pas. Mais pourquoi pas une entrevue avec le président de la République.
En tout cas, pour sauver... il ne lâche rien.
Ah, mais pour sauver l'Olympique lyonnais, il ne lâche rien. Ouais, ça, c'est sûr. Remarquez, ça, c'est bien. Il défend son club. Mais oui.
Un peu trop, au goût de certains.
Au goût de certains, un peu trop. Bien, on va parler
les légions d'honneur, ordre national du mérite pour certains soignants, qu'en pensez-vous? Des médailles aussi pour d'autres médailles. On va en parler avec Nicolas Poincaré tout à l'heure, mais là aussi, ça vous fait réagir. Il y a d'autres sujets qui vous font réagir. Les pédiatres, par exemple, qui demandent le retour des enfants à l'école. Et ils seront avec nous. L'un de leurs représentants sera avec nous tout à l'heure à 6h40. Le télétravail. 5 millions de personnes qui télétravaillent actuellement en France. Est-ce que vous accepteriez de télétravailler toute votre vie? Dites-nous, comment ça se passe le télétravail? Est-ce que vous travaillez mieux ou moins bien? Est-ce que vous avez envie de retourner sur les lieux de votre travail? Dites-nous. 3216 rmc.fr, 6h10. Allez, avant de m'intéresser au tourisme, on va beaucoup parler du tourisme, et notamment des colonies de vacances. Dans un instant, je voudrais prendre David, qui est dans la Vienne. Bonjour David.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous.
Vous êtes agriculteur, mon cher David.
Oui, tout à fait.
3216, c'est notre lien, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, David?
La radio, parce qu'en fait je suis double actif et je suis au volant d'un camion toute la semaine, donc à 5h j'attaque avec RMC directement.
Vous êtes au volant toute la semaine et vous êtes aussi agriculteur, je crois, hein, David?
Et
voilà,
et donc agriculteur le week-end.
Le week-end, donc vous n'arrêtez jamais, quoi.
Voilà, j'arrête jamais. Madame n'est pas toujours très contente, mais
évidemment, évidemment. Soirée à apéro familial samedi soir.
Eh oui, parce que c'est l'anniversaire de ma sœur. Elle aura 47 ans le jour même, hein, de toute façon le samedi. Et puis donc, on a décidé, avec son accord quand même, parce que ma sœur et mon beau-frère ont été parmi les personnes qui ont eu le coronavirus, alors à un niveau quand même assez faible.
Oui.
Voilà, et puis nous, c'est pas des pestiférés, c'est la famille, même si c'était des amis, ça fait exactement la même chose. Donc on va aller fêter ça tranquillement, donc ma sœur, mon beau-frère, mon neveu, mes parents, ma compagne.
Vous serez combien?
On sera 7.
7 personnes et sans masque?
Sans masque, pour boire, ça va être compliqué avec un masque.
Oui, ça, vous avez raison. Et ça, c'est...
Après, je croise quand même pas mal de public dans mes tournées, donc là, c'est le masque, dès qu'il y a quelqu'un.
Évidemment.
Seul, ça va, mais voilà, évidemment. Obligatoirement.
Bon, David, bon anniversaire, surtout bonne soirée samedi. Oui.
Merci
vous pouvez nous raconter, remarquez, vous pouvez toujours nous raconter si vous voulez. Il est 6h12, merci beaucoup, merci David, on commence bien la matinée. Vous nous appelez, dites-nous, vous aimez RMC, vous êtes nouvel auditeur, nouvelle auditrice, ou nouveau téléspectateur, nouvelle téléspectatrice, on aime bien vous accueillir ici, donc vous appelez le 3216 et je vous mets à l'antenne, évidemment. Y aura-t-il des colos cet été? La question des colonies de vacances sera abordée aujourd'hui. Comité interministériel autour du tourisme. Je vais beaucoup en parler à 7h10 avec la députée qui a rendu au gouvernement un rapport pour préparer ce plan de relance, de sauvetage du tourisme. Les ministres veulent répondre aux inquiétudes sur l'organisation, notamment des colonies de vacances et des camps scouts. En l'état actuel des mesures sanitaires, l'organisation des camps scouts semble impossible, même si les organisateurs planchent d'ores et déjà sur des solutions pour garantir la sécurité sanitaire des enfants, des adolescents. De leur côté, parents et enfants craignent que ces rendez-vous estivaux, les colos, centres de vacances, les scouts, enfin, etc., les louveteaux, que ces rendez-vous estivaux en pleine nature perdent tout leur esprit. Écoutez le reportage de Jean-Baptiste Bourgeon et Garance Munoz.
Avec les règles sanitaires liées au virus, Lilouen craint que son camp scout prévu cet été soit annulé ou qu'il n'ait plus beaucoup d'intérêt.
J'ai peur que ce soit très différent et qu'on ne puisse pas faire les mêmes activités. Par exemple, dormir en tente, je ne sais pas trop comment ça se passerait. J'ai peur que ce ne soit pas pareil.
Aucune proximité, des activités annulées et surtout la crainte du virus. Yannick, le papa de Lilouen, est perplexe.
Mes peurs principales, c'est que mon enfant soit avec un autre collectif d'enfants, qu'il attrape le Covid. La deuxième peur, c'est que finalement, le camp scout se vide de sa substance, de l'esprit scout, l'autonomie, le rapport aux autres, le rapport à la nature.
Alors les organisateurs planchent sur des solutions pour adapter les contraintes du virus à la réalité des camps scouts. Sad Zian est délégué général des éclaireurs de France.
À l'instant présent, ce n'est pas possible d'organiser un camp dans ces conditions-là. On travaille aujourd'hui sur des réponses qui peuvent être plus adapté au Covid-19 que ce qu'on faisait par avant. Par exemple, pour le couchage, bah, tout simplement pour ceux qui ont l'habitude d'avoir la tente de patrouille qui était pour 6 à 8 enfants, on s'oriente plutôt vers des tentes individuelles.
Malgré ces solutions, ce responsable scout prévient, si d'ici début juin, le gouvernement n'a pas assoupli les règles sanitaires, les camps de cet été seront annulés.
Bien, merci. Je vais parler de Jean-Michel Aulas dans un instant. Vous allez écouter le reportage de Julien Richard, le petit papier explicatif de Julien Richard. Alors, Quentin Vinet, plage, magasin, monument, le point sur ce qui rouvre et ce qui reste fermé. Alors, c'est bon de le faire.
Oui, les Bretons, d'abord parlons des Bretons qui pourront retourner à la plage dans le Finistère. 140 plages seront rouvertes aux promeneurs, aux baigneurs, aux pêcheurs aussi dans les prochains jours. Ce sera le cas dès samedi sur l'île d'Oléron à Saint-Pierre-d'Oléron, mais pas avant le 2 juin à Marseille. Pourquoi ? Parce que les plages de ville sont trop difficiles à surveiller. Ça, c'est ce que dit la mairie. Des petits groupes de pèlerins pourront retourner à Lourdes à partir de ce week-end. Le sanctuaire, vous le savez, était fermé pour Pâques, comme le Mont Saint-Michel qui vient de rouvrir avec finalement assez peu de visiteurs. Et les élus se mobilisent avec une pétition pour la réouverture du Puy du Fou en Vendée. Les Polynésiens peuvent retourner dans les bars, dans les cinémas, dans les discothèques. Il n'y a plus aucun cas depuis plus d'une semaine à Tahiti. Les restaurants sont sur le point de rouvrir à Saint-Pierre et Miquelon. C'est la deuxième phase du déconfinement là-bas. Par contre, il faudra attendre un petit peu pour refaire les boutiques, attendre jusqu'au mois de juillet. Les grands magasins parisiens seront fermés jusqu'au 10 juillet.
Pas tous.
Pareil pour...
Certains sont ouverts. Hein. Le BHV, par exemple, le Bon Marché sont ouverts.
Oui.
Les Galeries Lafayette et le Printemps restent fermés.
Exactement. C'est le cas également des centres commerciaux comme les Halles, comme Italie 2, comme Beaugrenelle. Pas de shopping non plus à Lyon, dans les galeries marchandes de la Pardieu et du Carré de Soie, qui ne rouvriront pas avant juillet.
Bien, merci Quentin. Des infos avec Quentin Vinet, régulièrement. Il est 6h16. Il ne digère pas. Il ne décolère pas. Il ne lâche rien. Qui met Jean-Michel Aulas, bien sûr. Le président de l'Olympique Lyonnais qui fait appel au soutien des parlementaires maintenant, après la décision de la Ligue de football professionnel de mettre un terme à la saison de Ligue 1. Un classement qui n'est pas favorable à son club. Il est 7e. Bah oui, mais c'était le classement la 28e journée. Hein. Personne n'y peut rien. Il est 7e. Et aucune entrée en Coupe d'Europe. Le dirigeant lyonnais a envoyé un long courrier aux députés et sénateurs dans lequel, Julien Richard, il tape sur le gouvernement et sur sa ministre des Sports, Oksana Maracineanu.
On aurait pu attendre pour Jean-Michel Aulas. La ministre a précipité la décision des dirigeants du foot français et elle s'est appuyée sur des arguments, je cite, discutables comme l'absence d'un scénario alternatif alors que lui et d'autres avaient des propositions pour terminer la saison. La France aurait pu attendre le retour d'expérience de l'Allemagne qui reprend ce week-end, explique-t-il. Les autres grands championnats européens trouvent, eux, des solutions. Jean-Michel Aulas parle de catastrophe économique. Il qualifie de pas très démocratique le projet de loi qui permettrait aux instances de se protéger après les annulations de saison sportive. Il se dit même prêt à le contester. On est dans une mauvaise direction, mais ce n'est peut-être pas trop tard, lance Jean-Michel Aulas aux parlementaires. Il en va de l'intérêt général et du futur du football français.
Il en va surtout de l'intérêt général et du futur de l'Olympique Lyonnais. Oui. Il est 6h17. Mais non, mais disons clairement les choses. Pourquoi il faut le dire. Il est 6h17. Vous êtes sur RMC. Parce que Jean-Michel Aulas, il est extraordinaire. Et il parle de l'intérêt du football. Mais quand il parle de l'intérêt du football, il pense intérêt Olympique Lyonnais. Évidemment. 6h17. Merci d'être avec nous à 6h17. Vous êtes sur RMC. On va appeler l'UCPA. Tiens. Le directeur général de l'UCPA, vous connaissez, hein, ce sont des vacances. Beaucoup d'étudiants, tant de jeunes ont fréquenté les centres de l'UCPA. Comment ça va se passer cet été? Guillaume Legault est avec nous dans 2 minutes, 6h18.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct.
Il est 6h20, Guillaume Legault, bonjour. Allô? Bon, j'ai un petit problème avec Guillaume Legault qui n'est pas là. Vous êtes là? Allô. Bien, nous n'avons pas de Guillaume Legault. Ah, Guillaume Legault.
Oui, bonjour.
Ah, je vous entendais pas. Directeur général de l'UCPA, l'Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air. Les colonies de vacances, Guillaume Legault. Vous ne savez rien, en fait. Enfin, les colonies de vacances, les colonies de vacances. Combien de colonies de vacances, combien d'enfants avez-vous accueilli, par exemple, en 2019, ou d'adolescents, hein?
Alors, trois chiffres. En 2019, on a accueilli 140 000 enfants adolescents pour des colos éducatives. On a accueilli aussi 110 000 jeunes et adultes pour des séjours sportifs. Et puis, on a accueilli dans les loisirs de proximité, les piscines, les centres équestres, plus de 3 millions d'autres personnes.
Oui, oui. Bon, ça, c'était l'été 2019. L'été 2020 ?
Eh bien, l'été 2020, comme vous dites, on ne sait pas tout, mais oui. On sait certaines choses.
Oui.
J'entendais à l'instant sur votre antenne un parent qui disait « on veut des rassurances sur le plan sanitaire, il faut effectivement expliquer aux gens qu'on va mettre en place des mesures très adaptées pour assurer la sécurité sanitaire. Mmh. Mais ce qu'on sait, c'est la valeur des colonies de vacances. Et les parents l'ont dit, il y a besoin pour les enfants de pouvoir partir l'été prochain, il va y avoir besoin de pouvoir sortir de ces règles de confinement, retrouver la capacité de s'épanouir un peu et de vivre en lien avec la nature.
Bien. Il va falloir... falloir passer outre la mobilité de 100 km, hein. Pour vous, évidemment. Hein. Peut-être que, je sais pas moi...
On peut organiser des séjours en proximité.
Ah bon ? Vous pouvez ?
Nous, c'est une des propositions qu'on fait aujourd'hui au gouvernement.
Oui.
C'est de dire, lançons des aides pour aider des séjours éducatifs en proximité, proche des villes, dans lesquelles, justement, les enfants vont pouvoir vivre avec des conditions sanitaires adaptées.
Vous êtes en capacité de le faire ?
On propose, on a mis sur la table du gouvernement la possibilité d'accueillir 40 000 jeunes. Mais pour ça, il faut prendre des décisions rapidement.
Ça, évidemment. Mais vous participez tout à l'heure à la grande réunion interministérielle.
Alors, on a participé aux réunions préparatoires.
Oui.
Et comme je le disais, parmi les mesures qu'on a proposées, c'est effectivement d'organiser des colos éducatives apprenantes pour près de 40 000 jeunes en proximité des villes.
Oui.
On a aussi dit à l'État... C'est important de mobiliser la Caisse des dépôts, la Banque publique d'investissement pour aider les associations et les entreprises du tourisme et du sport, parce qu'il va falloir qu'on puisse amortir dans la longue durée les pertes qu'on a subies. Et puis surtout, il faut que l'État aide à faire confiance aux citoyens et aux acteurs professionnels. On le voit aujourd'hui, ils sont capables de respecter les consignes sanitaires.
Bien sûr, mais bien sûr. Alors vous avez prévu de mettre en place des groupes réduits, un nettoyage plus fréquent, des installations et des mesures de distanciation sociale, évidemment. Guillaume Legault, merci. On vous reprendra. Hein. Mais pour l'instant, tout est maintenu. Pour l'instant, que dites-vous aux parents, tiens, ce matin?
Aux parents, on leur dit qu'il faut être patient.
Oui.
On a appris ça depuis le début du confinement.
Oui.
Il faut être confiant.
Bon.
Voilà. Et donc, il y a des choses qui se feront plus comme avant. On pourra plus passer sa gourde à son voisin.
Oui.
Il y a des choses qui vont se faire autrement, où on met en place effectivement des repas étalés, des protocoles de nettoyage renforcés, etc. Mais on est aussi convaincu que la santé de tous, ça passe par la possibilité de vivre des vacances, de pouvoir reprendre de l'activité sportive. Et donc, pour ça, il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble autrement. Et quelque part, nous, notre métier d'éducateur sportif, c'est d'apprendre à vivre ensemble. On l'a bien fait il y a quelques années pour apprendre à vivre avec les fumeurs sans qu'ils viennent nous encombrer dans le quotidien. Eh bien, on pense qu'on va pouvoir apprendre à vivre avec le Covid tout en ayant une vie sociale un peu nouvelle.
Bien, merci Guillaume Legault, directeur général de l'UCPA. Et d'ailleurs, l'importance de ces colos, de ces vacances pour les enfants, j'en parlerai tout à l'heure à 6h40 avec mon invité, le professeur de la cour, pneumopédiatre à l'hôpital Necker à Paris, les pédiatres qui recommandent le retour à l'école. Charles Magnin, tous les matins, trois histoires, trois images insolites. Il est 6h25, ça va Charles ?
Très bien Jean-Jacques.
Bon, on commence avec l'initiative d'un restaurant allemand pour sa réouverture.
Oui, ces derniers jours, Jean-Jacques, je vous ai montré le restaurant suédois pour une seule personne, le restaurant hollandais qui a installé des serres en verre pour séparer les clients. Eh bien voici le restaurant allemand qui vous impose le chapeau frites. Mais oui, chaque client qui s'installe en terrasse doit enfiler un chapeau sur lequel sont fixées des frites en mousse, celles qu'on utilise à la piscine, hein, vous les connaissez ces frites. Ces chapeaux permettent de respecter les distances physiques. Le tout, Jean-Jacques, est de savoir si vous êtes prêt à être ridicule pour boire un coup en terrasse.
Je suis pas sûr, non.
Vous n'êtes pas certain.
Et vous ?
Pourquoi pas? Si c'est le prix à payer pas, pour boire un coup,
je suis d'accord.
C'est,
oui.
C'est une bonne raison de rire entre copains, ça.
Oui. Bah, il faut avoir le sens de l'humour.
Vraiment le sens de l'humour. Et c'est d'une élégance. Au Danemark, des collégiens ont repris les cours dans un stade de foot.
Oui, beaucoup d'écoles danoises ont choisi de reprendre les cours en extérieur, dans des parcs, dans des jardins, mais aussi dans des stades. Le FC Copenhague a prêté son stade à 200 collégiens qui se sont installés dans les tribunes vides pour reprendre les cours. 10 sièges d'écart entre chaque élève. Interdiction de mettre un pied sur la pelouse, car les pros vont bientôt reprendre l'entraînement. Les enseignants reconnaissent que c'est un peu plus compliqué de capter l'attention des élèves. Mais quel enfant n'aurait pas rêvé d'avoir cours dans les tribunes du Parc des Princes, du Vélodrome ou bien des Costières étant enfant?
Oui, dans les Costières, on n'est pas superbement bien installé. Hein, je le dis tout de suite. Bientôt un nouveau stade, heureusement. Le prestigieux New York Times dresse le portrait du professeur Didier Raoult.
Et c'est forcément un honneur pour le très médiatique professeur Raoult, même si la tonalité du portrait n'est pas très flatteuse. Le journaliste américain le compare à Donald Trump, un iconoclaste avec de drôles de cheveux. Son autosatisfaction est plus ou moins incessante, écrit le New York Times, qui insiste sur le culte de la personnalité qui entoure le professeur Raoult. Et justement, une image est venue confirmer hier son aura, notamment à Marseille. Un jeune homme a dévoilé sur Instagram, regardez, son nouveau tatouage, un portrait du professeur Raoult dessiné sur la cuisse, avec écrit en dessous « Made in Marseille ». Alors sur la forme, le tatouage est très réussi. Sur le fond, rappelons qu'il y a des choix plus ou moins risqués que d'autres et qu'un tatouage ne s'efface pas avec du gel hydroalcoolique ou de l'hydroxychloroquine.
Hein. Terminé en musique.
Avec une reprise de Queen confinée, c'est la star des talk-shows américains Jimmy Fallon qui s'est lancé avec son groupe The Roots, chacun chez soi, les moyens du bord pour rejouer Under Pressure. Des casseroles, des cuillères,
c'est génial.
Et on peut faire de la musique.
On va faire appel à Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Jacques.
Comment ça va, Carpentras?
Carpentras, ça va mal. Hein.
Ça va mal. Et vos fraises, vous avez réussi à les écouler ou pas?
Les fraises, on les a écoulées. On a les cerises et les melons qui arrivent, mais on n'a pas les marchés ouverts.
Les marchés, mais ça commence à ouvrir les marchés quand même. Je comprends pas, Olivier.
Carpentras, on attaque demain.
Oui.
Et on a des marchés, on est bientôt le 20 mai, mi-mai. On n'a pas des marchés qui sont ouverts en Vaucluse. Alors les maires, ils nous disent, c'est le préfet, et le préfet, on ne peut pas les contacter. Alors comment on fait?
Non mais attendez. Si le maire est efficace, il doit, aujourd'hui, avec les conditions de sécurité réunies, les marchés peuvent ouvrir, mais il faut que les maires fassent ce qu'il faut. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Olivier? Mettez la pression sur les maires.
Eh bien, c'est ce qu'on fait. Moi, je fais quartier des mairies. On a des mairies comme Salon de Provence. Et nos marchés sont toujours pas ouverts.
Eh bien, c'est pas normal. Eh bien, à Carpentras, c'est ouvert.
À Carpentras, on ouvre demain.
Vous ouvrez demain, très bien. Il y a des marchés, à Paris, ça commence à ouvrir les marchés, enfin je sais pas, partout en France.
On est bientôt fin mai, on n'a pas de marché ouvert sur le Vaucluse.
Non, mon pauvre Olivier.
C'est compliqué pour la production.
Bah oui, j'imagine.
Et le deuxième problème, c'est qu'il va falloir qu'on serve les gens, parce qu'ils ne pourront pas toucher la marchandise.
Ah oui, mais ça, Olivier, oui, ça c'est
et
sûr.
Et en dehors de surface, les gens, ils se servent, ils touchent, ils posent, ils n'arrêtent pas. Alors pourquoi il y a deux justes mesures?
Oui. Olivier, je vous reprends parce que je suis à la bourre là. Je vous reprends, je suis en retard. Je vous reprends,
à
Olivier. À bientôt, mon cher Olivier, qui est un auditeur fidèle parmi les fidèles. 6h30, la machine à café 32-16, la touche 5, Quentin.
Et le mot matin par SMS 7-32-16.
Qu'allons-nous faire, Mathieu ?
À suivre, il est urgent de maîtriser nos peurs et d'aller de l'avant pour le bien de nos enfants. Qui dit cela ? Ce sont les pédiatres qui appellent à un retour rapide à l'école. Le professeur Delacour, président de la société de pédiatrie, est avec nous juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est 6h31, c'est l'heure des infos avec Anne-Sophie Balbir. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Comment aider le tourisme à se relancer? Le gouvernement annonce ce matin une série de mesures, un plan Marshall de près d'1,5 milliard d'euros. La prime Covid distribuée dans 40 départements, 1500 euros net pour les personnels hospitaliers. Règlement attendu sur les payes de mai ou juin selon l'exécutif. Et puis, est-ce que j'ai déjà eu le coronavirus? Question que se posent de nombreux Français. Les tests sérologiques se multiplient, les files d'attente s'allongent devant les laboratoires. RMC 6h31. La réunion doit débuter à 9h ce matin. Comité interministériel sur le tourisme. Édouard Philippe devrait dévoiler des mesures de relance pour aider ce secteur qui représente plus de 7% du PIB. Il promet un plan Marshall de près d'1,5 milliard d'euros. Hôteliers, restaurateurs, voyagistes attendent beaucoup du gouvernement. Eux qui enchaînent les semaines sans chiffre d'affaires en raison de l'épidémie. Illustration dans le Grand Est, l'une des régions les plus touchées, à Eguisheim en Alsace. Caroline Philippe, Maxime.
Les pages du carnet de réservation sont blanches.
Tout est gommé, tout est vide. Il n'y a plus une réservation.
L'hôtel de Philippe Lambert affiche complet normalement à cette période de l'année.
Depuis le début mars, les gens ne réservent plus et ne font que d'annuler. Tous les étrangers, bien sûr, ont annulé souvent les premiers. Et les Français vont attendre pour pouvoir réserver. Donc, est-ce qu'ils vont venir en Alsace? Ça, c'est aussi la question.
L'autre question, quand ces établissements vont-ils rouvrir? De l'autre côté de la place du village, Bertrand Gély s'impatiente dans son restaurant tout aussi désert, dans lequel il a investi 4 millions d'euros il y a moins d'un an.
Je pense déjà à licencier la moitié de mon personnel. On vit du tourisme. Rendez compte, 20 restaurants dans un village de 1600 habitants. Ça va être une année blanche. Déjà, on va être les derniers à être en rouge sur la carte.
Rouge, la couleur qui risque de faire fuir les touristes, explique Jean-Jacques Béter, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Haut-Rhin. Selon lui, il faut assouplir la règle des 100 km et rouvrir les frontières.
Avec le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, on peut peut-être encore faire une arrière-saison. Pour nous sauver de ne pas mourir, pas pour rattraper ce qu'on a perdu.
Dans le département, 13 000 personnes travaillent dans le secteur du tourisme.
Et c'est environ 2 millions d'emplois à l'échelle nationale. La Commission européenne appelle les pays membres à rouvrir leurs frontières pour favoriser la reprise. Elle sera versée dans les prochaines semaines, probablement sur les payes de mai ou de juin, la prime des personnels hospitaliers. 1500 euros net maximum distribués dans 40 départements, Rémi.
Oui, dans les 40 départements les plus durement touchés par le Covid-19, principalement dans le quart nord-est du pays. Il s'agit des départements des régions Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France. S'ajoutent également 4 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les Bouches-du-Rhône, la Corse et Mayotte. Les personnels des hôpitaux de ces départements vont donc recevoir cette prime de 1500 euros net de tout, c'est-à-dire sans cotisation ni impôt. C'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran à la mi-avril. D'autres agents sont concernés en dehors de ces zones. Ceux qui ont travaillé dans les services Covid plus des hôpitaux percevront également la prime de 1500 euros. Ceux des autres services percevront, eux, une prime de 500 euros. Le versement de ces primes reste suspendu pour le moment à la parution d'un décret en précisant les modalités. Prime qui devrait donc apparaître sur les fiches de paye de mai ou de juin.
Rémi Inck, merci. Les soignants seront aussi mis à l'honneur le 14 juillet à l'occasion de la fête nationale et seront récompensés dans une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite le 1er janvier prochain. La France a franchi la barre des 27 000 morts selon le dernier bilan et nous sommes loin de l'immunité collective nécessaire pour que l'épidémie soit contrôlée. Selon des données actualisées de l'Institut Pasteur, seulement 4,4% de la population a été infectée par le Covid. Benjamin Pelsi.
9,9% des habitants d'Île-de-France ont été infectés par le coronavirus. Pour le Grand Est, c'est 9,1% de la population qui a contracté la maladie. Des chiffres inférieurs aux projections établies par l'Institut Pasteur avant le déconfinement. Le nombre total de Français infectés est lui aussi revu à la baisse. Au lieu d'un peu moins de 4 millions de personnes attendues 11 mai, c'est finalement 2,8 millions. Selon cette dernière étude, ce faible taux de contamination est dû au confinement qui a réduit la circulation du virus. Les chercheurs rappellent que pour atteindre l'immunité collective, il faut que 65% des Français aient contracté la maladie.
Et vous l'avez peut-être remarqué, les Français sont de plus en plus nombreux à se faire tester en laboratoire des demandes de sérologie pour savoir s'ils ont déjà eu le Covid, s'ils ont développé des anticorps. À Paris, Mao Becker-Granier, Dominique Marie.
Lucille est sage-femme, elle veut savoir si elle a déjà eu le coronavirus.
En tant que professionnelle de santé, je voulais savoir si je l'avais déjà eu ou pas. Là, je me dis, c'est un virus, on a sûrement une immunité, même si elle dure quelques mois avant qu'il y ait une éventuelle mutation. C'est vraiment pour moi, quoi. C'est pas forcément pour derrière aller faire n'importe quoi, quoi.
Pas question de se laisser aller, car pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de l'efficacité de ces anticorps. Bruno Fuchs est biologiste dans ce laboratoire.
C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique autour de leur caractère protecteur. Et d'autre part, on ne connaît pas encore la cinétique des anticorps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ils restent dans le sang.
Que tout le monde aille se faire tester, ce n'est pas une bonne idée pour le président du syndicat des biologistes, le docteur François Blanchecotte.
On ne peut pas dépister à grande échelle parce que ça reviendrait toutes les semaines à dépister tous les Français et ça n'a pas de sens du tout. Il faut vraiment, autour d'un cas positif, détecter le plus grand nombre de personnes comme on l'a fait la première fois et comme on aurait dû continuer à le faire au fur et à mesure du temps.
Un test coûte, selon les laboratoires, entre 30 et 45 euros.
On a aussi ce matin cette petite phrase qui ne passe pas inaperçue. Si on trouve un vaccin, les États-Unis seront les premiers servis. C'est le directeur général du laboratoire français Sanofi qui le dit. Il estime que c'est légitime dans la mesure où les Américains ont été les premiers à participer au financement de la recherche. Les sportifs toujours à l'arrêt, pas de compétition. Alors certains tentent de se rendre utiles comme ils peuvent. Après les cyclistes livreurs, les rugbymen infirmiers, voilà le boxeur devenu prof pour les soignants. Johan Tritz, Romain Pougeot.
Allez, tourne, mets la pression. Essaye.
C'est dans une salle de jeu du service de pédiatrie aménagée pour l'occasion que le boxeur et ancien champion du monde Hassan Endam donne ses consignes.
Présente-moi bien ton épaule. Si tu ne me présentes pas ton épaule, ton geste va être inefficace.
Un professeur de prestige pour tous les membres du personnel soignant, du chirurgien à l'infirmier. Masque sur le visage, blouse sur le dos et gants au poing. Tous ont besoin de se changer les idées en pleine journée de travail, à l'image d'Ernest Chavanne, chirurgien orthopédiste.
C'est un sport qui nous permet de se défouler un peu, dépenser beaucoup d'énergie, on transpire, ça on a besoin. Mais dans notre métier, on a très peu de temps pour pratiquer l'activité sportive.
Une initiative du Franco-Camerounais qui voulait rendre ce que l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges lui a apporté. Son beau-père a été guéri du Covid-19 dans l'établissement.
Je me suis senti un peu redevable. Et ça m'est venu comme ça dans la voiture avec ma femme. Je lui ai dit, écoute, je vais envoyer un mail à la DRH pour être bénévole et donner des cours de boxe.
Endam est présent 5 fois par semaine et jusqu'à la fin du mois, avant de retourner s'entraîner sur les rings.
Ça va bien. À toi.
Et les courses, Mathieu, c'est à Paris-Longchamp.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Favori numéro 2, l'Arnaud. Outsider numéro 6, Léonio. Le 2 et le 6.
Il est 6h39. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner. 32-16. Vous avez l'habitude, c'est notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Vous appelez, vous intervenez, vous nous dites, vous découvrez RMC, vous découvrez RMC Découverte, vous nous dites, j'aime vous accueillir. Allez, 6h39, nous continuons avec vos témoignages, évidemment, hein, qui sont nombreux, qui arrivent. J'en vois déjà sur mon écran, mais je voudrais... Tiens, avec Quentin Vinet, petites infos. Quentin, de quoi pourriez-vous me
parler? Le monde entier, si vous voulez.
Le quoi? Le
monde entier.
Allez,
si
le monde entier. Quelle
partout.
Est la situation?
Ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'on voit qu'il y a un monde à deux vitesses, en quelque sorte. Le oui. bilan de la pandémie s'approche des 300 000 morts. Il y a ceux qui déconfinent et puis ceux qui prolongent le confinement. La vie commence à reprendre en Angleterre. Les Anglais peuvent à nouveau retourner travailler, jouer au golf ou profiter du soleil dans les parcs, alors que le Royaume-Uni reste le troisième pays le plus endeuillé du monde. Les mesures sont allégées aussi aux États-Unis. Enfin, pas partout. Les plages autour oui. de Los Angeles viennent de rouvrir pour la promenade. Pourtant, de l'autre côté du pays, Washington continue de se barricader. Le confinement devait être levé à la fin de semaine. Finalement, il est prolongé jusqu'au 8 juin, car la pandémie ne recule pas vraiment à Washington. Les États-Unis risquent de vivre leur hiver le plus sombre, c'est ce que dit un scientifique américain. Pareil au Chili, confinement prolongé dans la capitale Santiago, où le nombre de cas a augmenté de 60% en seulement 24 heures.
Oui. Le virus s'est installé en Amérique du Sud.
Exactement. Et justement, on a le pire bilan quotidien pour le deuxième jour mais de oui. suite au Brésil.
Mais l'Afrique est toujours peu touchée.
Oui,
mais le Nigeria.
Exactement. Le Nigeria constate une forte hausse de décès inexpliqué, ce qui fait craindre une forte progression du virus selon un médecin là-bas.
Merci Quentin Vinet pour toutes ces informations qui se succèdent le matin. Vous réagissez évidemment. David, tiens, David est à Lambesc dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour David.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Bonjour David, vous écoutez RMC ou vous regardez RMC Découverte, David?
Alors, je regarde la télé.
Vous regardez la télé, vous David, le matin. Ça fait longtemps que vous regardez la télé?
Alors, la télé, pas si longtemps que ça, puisque je changeais de travail, je me suis rapproché de la maison, donc je peux regarder le matin. Sinon, avant, j'écoutais la radio tout le long du trajet pour aller au travail.
Avant, vous étiez sur la radio, maintenant sur la télé. David, hier, vous étiez dans un village pour travailler. Oui. Hein ?
C'est ça.
Et qu'avez-vous vu ?
Les attroupements d'adolescents qui étaient attroupés et qui discutaient, qui se rapprochaient, qui limite s'embrassaient, sans aucune distanciation sociale.
Sans aucune.
Et en fait, moi, ce qui,
pas de masque, voilà, rien.
Pas de masque, rien du tout.
Ouais.
Rien du tout. Donc vraiment aucun air ou autre. On voyait vraiment que c'était des adolescents qui se retrouvaient après le confinement. Et en fait, moi, je voulais tirer quand même un petit coup de gueule par rapport à ça. Parce que j'ai pas envie, par l'inconscience de certaines personnes, qu'on se retrouve avec une deuxième vague et qu'on soit bloqué pour les vacances d'été. Moi, sincèrement, après 2 mois de confinement, on n'a qu'une envie avec ma femme et des enfants, c'est de partir en vacances, de s'oxygéner un peu, de sortir. Et j'ai pas envie, par l'égoïsme de certains, de devoir repousser ça l'année prochaine.
Vous n'êtes pas le seul à témoigner dans ce sens ce matin sur RMC. Même si certains disent maintenant on en a assez des mesures de précaution, moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. J'entends ça aussi, David.
Ah oui,
mais
oui,
les enfants, c'est aux parents de les avertir et c'est aux parents de tout faire pour qu'ils prennent. Enfin, quel âge avaient-ils?
Oh, c'était des ados. Je pense qu'ils avaient une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années. Bah là, les ados. Pourtant, les ados sont responsables souvent. Hein. Ils savent les gestes, ils savent ce qu'il faut faire, mais c'est aux parents aussi d'insister. Hein, d'insister.
Tout à fait.
Bon, merci David, dans tous les cas.
Merci.
À vous continuez à appeler, vous n'hésitez pas. Nous allons parler des enfants un peu plus jeunes avec le professeur Christophe Delacour, qui est pneumopédiatre à l'hôpital Necker à Paris. 20 présidents de sociétés savantes de pédiatrie réclament le retour des enfants à l'école. Pourquoi ? Eh bien, le professeur de la cour va tout nous dire dans 2 minutes. À tout de suite.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct.
Il est 7h moins le quart. Professeur Christophe de la cour, bonjour.
Bonjour.
Oui, professeur de la cour, bonjour. Décidément, j'ai bonjour, un problème. Hein, j'ai un problème. Je ne vous vois pas.
Vous
bah vous bonjour. Êtes là. Voilà. Professeur de la cour, vous êtes pneumopédiatre à l'hôpital Necker à Paris, président de la Société française de pédiatrie.
Bonjour.
Je vous ai eu plusieurs fois et je vous remercie d'être encore une fois avec nous. Tribune hier de 20 présidents de sociétés savantes de pédiatrie intitulée Retour à l'école et Covid-19. Il est urgent de maîtriser nos peurs et aller de l'avant pour le bien des enfants. Il faut absolument, dès que c'est possible, pousser les enfants à retourner à l'école. C'est cela, professeur ?
Absolument. Nous avons, depuis le départ, soutenu ce retour des enfants à l'école. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de blocages à l'organisation de ce retour qui sont liés à des peurs de la part des enseignants, de la part des parents, et que ces peurs ne sont pas basées sur des faits. Et donc, cela aboutit à la mise en place de procédures qui sont, d'une part, totalement non réalistes, mais surtout qui nient la réalité de l'enfance. Par exemple, le fait d'interdire des moments de détente, l'interdire aux enfants de jouer, est une certaine négation de ce qu'est un enfant, et potentiellement assez anxiogène pour les enfants. Et nous pensons que cela n'est pas basé sur la réalité de ce qu'est l'enfant dans cette épidémie Covid.
Oui, l'enfant qui paie un lourd tribut à quoi ? L'hypothèse initiale selon laquelle les enfants étaient le vecteur principal de la circulation du Covid-19. Moi, je me souviens de cela. Ça avait été relayé, beaucoup de responsables politiques. Bah tiens, je reçois Marine Le Pen tout à l'heure, qui était contre le retour des enfants à l'école. N'était pas la seule. Hein. Beaucoup contre, avec toutes ces craintes. Vous dites non ? Vous dites il ne faut pas que les adultes reportent leurs angoisses sur les enfants.
Absolument. Le vecteur principal de cette épidémie, c'est la circulation du virus dans les adultes, parmi les adultes. C'est pour ça qu'il faut que les adultes soient absolument exemplaires dans ce déconfinement. Concernant les enfants, par exemple, il n'y a aujourd'hui aucun exemple, que ce soit en France ou dans d'autres pays, d'épidémie dans les crèches, dans les écoles, dans les maternelles. Et quand on regarde le nombre de cas sévères chez les enfants, on est à 1% des hospitalisations pour du Covid qui sont chez des enfants de moins de 15 ans. Donc, on est pas, l'enfant est extrêmement à une place tout à fait à part dans cette épidémie. Et il faut également avoir en tête que pendant le confinement, il y a eu des collectivités d'enfants qui ont continué à exister, par exemple pour les enfants des personnels soignants, que ce soit des crèches ou des classes, et il n'y a eu aucun problème dans ces collectivités. Donc il faut quand même essayer, et c'est le sens de notre tribune, d'aller vers un peu plus de rationnel pour que cette reprise progressive de l'école, avec un certain nombre de précautions, puisse se faire en respectant quelque part l'enfant.
Professeur Delacour, vous dites, attendez, les jeux de ballon doivent être possibles. Pourquoi interdire les jeux de ballon? Pourquoi interdire qu'on se prête, que les enfants se prêtent des crayons ou des stylos, par exemple?
Alors, effectivement, l'essentiel, c'est que on puisse, par exemple, accompagner ces moments de détente derrière par un lavage des mains et un retour en classe organisé. Donc, il est, pour que ça se fasse bien, sûrement nécessaire de passer par des petits groupes au départ, mais il faut quand même garder une certaine vision de ce qu'est un enfant et de ses besoins dans une collectivité.
Bien, 6h49, professeur Delacour, j'ai une question qui vient régulièrement. Est-ce que les enfants sont en danger? Question basique, est-ce que les enfants sont en danger lorsqu'ils retournent à l'école?
Non, les enfants ne sont pas en danger. Et l'idée qu'on puisse faire une école libre de tout germe, de tout microbe, est une absurdité.
Mais oui.
On a l'impression d'oublier qu'il y avait avant des épidémies de grippe, des épidémies de bronchiolite, des épidémies de varicelle dans les écoles, et que toutes ces infections peuvent, chez certains enfants, occasionner des hospitalisations et quelques complications.
Alors, oui, professeur, pourquoi est-ce que c'est bon pour l'enfant de retrouver l'école?
Mais parce que l'enfant a besoin d'un environnement socio-éducatif pour son développement et qu'il ne le rencontre que de façon très partielle dans son milieu familial, s'il reste dans son milieu familial, et que l'apprentissage de la collectivité et l'éducation est un élément tout à fait fondamental du développement de l'enfant.
Professeur Delacour, dernière question sur le fameux syndrome de Kawasaki, la maladie de Kawasaki, des symptômes proches de la maladie de Kawasaki. On dit, Santé publique France devrait communiquer ce jeudi des chiffres, on dit qu'il y aurait une centaine de cas en France, c'est ça?
Alors, effectivement, il y a eu un recueil qui a été mis au niveau national pour ces cas. Donc, je n'ai pas les chiffres complets, mais effectivement, les informations que j'ai, c'est qu'au niveau national, il y aurait un peu plus d'une centaine de cas qui auraient été recensés. Dans cette centaine de cas, il va y avoir à la fois des cas de réanimation, qui étaient les myocardites qui avaient été signalés au départ, et puis des cas qui ne sont pas du tout réanimatoires. Donc, il faut avoir le détail pour voir ce qu'il en est, mais on reste dans des complications qui sont tout à fait limitées en nombre et qui ne doivent pas remettre en cause ce retour à l'école.
Oui, et c'est très marginal. Et il n'y a pas de décès, professeur.
Alors ça, je n'ai pas les chiffres. Je ne pourrais pas vous affirmer qu'il n'y a pas de décès. En tout cas, sur l'Île-de-France, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de décès.
Bien. Merci beaucoup, professeur Delacour. Hein. Merci d'être avec nous. Je reviendrai sur l'école, parce que ça reprend un peu partout, doucement, c'est aujourd'hui à Paris, hein, le retour à l'école. Vous nous dites, j'en parlerai à Marine Le Pen, qui est mon invitée tout à l'heure, elle est contre hein, le retour à l'école, elle demandait le retour à l'école au mois de septembre. Merci, professeur Delacour, 6h52, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous. Allez, dans un instant, nous sommes avec Anthony Morel.
Oui, et on a vu ça en Chine, ça arrive en France, des caméras qui vous prennent la température dans les rues, les entreprises, les métros. Le boom des caméras intelligentes, c'est déjà demain, dans une minute, sur RMC.
RMC.
C'est déjà demain.
C'est déjà demain avec Anthony Morel. Anthony, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes venu avec un objet. Oui, il est, oui,
il est là.
Je l'avais jamais vu, hein. Je vous dis tout de suite, je n'avais jamais vu ça, qui va devenir de plus en plus courant dans les entreprises, les rues ou encore le métro. Une caméra intelligente qui prend la température.
Ouais, exactement. Et qui détecte même si vous portez bien votre masque ou non.
Voilà. Alors c'est un objet qu'on va voir arriver qui va s'installer dans l'espace public.
Garcin-Lazare, je crois, à Paris, c'est déjà...
Garcin-Lazare aussi. Ah ben je sais. Je sais qu'il y a des expérimentations. Mais en tout cas, voilà, ce sont des caméras intelligentes, donc bardées d'intelligence artificielle, qui vont être capables, effectivement, alors de détecter mon visage. Celle-ci, elle est destinée notamment à l'entrée des bâtiments, des immeubles de bureaux.
Donc là, je ne porte pas de masque.
Donc alors là, par exemple, je vais montrer ma tête. Il va le détecter, normalement.
Oui. Visage détecté. Veuillez mesurer la température.
Voilà, donc il détecte mon visage.
Visage détecté. Veuillez mesurer la température.
Voilà, et donc là,
température basse.
Température basse, donc là, ça va. Il me laisse passer, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais en gros, le principe, c'est que vous avez une caméra haute définition qui va détecter mon visage, qui détecte si je porte un masque, si je n'en porte pas, qui prend ma température et qui me laisse passer ou qui ne me laisse pas passer. Et ça, alors, elle vient de Hong Kong, celle-ci. C'est un importateur français qui me l'a prêté et qui m'explique qu'il y a beaucoup de demandes de la part des entreprises pour installer ça dans les bureaux, par exemple, à l'entrée des entreprises et aussi dans la grande distribution. C'est-à-dire que.
Montrez-moi, Anthony.
Vous l'essayez, vous?
Moi, non, mais allez-y, mettez-moi. Mais non, mais là, ça ira, là, c'est bon, là, voilà.
Veuillez mesurer la température.
Donc voilà. Et donc il faut approcher son poignet du capteur thermique, ça prend la température, et ça vous donne
non,
la température.
Non, mais dites-moi, c'est absolument. C'est fou. Ça existe en Chine, évidemment.
Ça existe en Chine, bien sûr. On s'est beaucoup moqué des Chinois au début.
Oui,
vous vous souvenez, on disait, mais attendez, ils mettent des caméras partout, c'est incroyable, etc.
Et puis alors, on les prend en exemple. On prend la Chine ou la Corée du Sud en exemple.
C'est vrai.
Bon, mais on ne veut pas de leur technologie.
Je veux nuancer un tout petit peu quand même. C'est pas tout à fait la même technologie. C'est-à-dire que là, les données, déjà, elles sont pas stockées. C'est-à-dire que c'est juste dans la caméra et ensuite c'est
mais
pas
où vont les données?
Elles ne sont pas envoyées. Non, c'est-à-dire qu'en gros, on prend juste la température. Si vous avez de la température, on ne vous laisse pas passer, mais après les données, elles sont effacées. En tout cas, en théorie, c'est comme ça que ça se passe.
Il n'y a pas de reconnaissance spatiale dans ces caméras. Va dans un centre?
Non. Pour le coup, vous avez juste la caméra. Elle n'est pas connectée à Internet. Elle est pas. Non, c'est juste le système interne de la caméra.
À quoi ça sert alors?
Eh ben, ça sert
de voir qu'il y a un humain
à l'instant T.
Il y a un humain qui
de savoir. Non, alors, mais à quoi ça sert de savoir si on porte un masque
dans
ou pas,
le métro, par exemple, les expérimentations qui sont menées par la RATP, c'est pour voir la proportion de gens à un moment donné qui portent le masque ou
donc
qui ne portent
relié,
pas le masque.
C'est relié à un centre de contrôle.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est anonymisé. On ne sait pas qui a un masque ou qui n'en a pas. C'est pas.
On a l'image quand même.
L'objectif, ça n'est pas de. Alors, ça va dire, encore une fois, c'est le discours de la RATP. En tout cas, c'est pas de verbaliser, c'est de faire des statistiques.
Est-ce
pour
que ça peut
cibler...
bloquer le portillon, par exemple?
Non, je parle. On peut théoriquement, on pourrait imaginer, mais je ne crois pas que ce soit l'objectif. Aujourd'hui. Là, le but, c'est plus de sensibiliser dans des zones précises, là où les gens portent pas le masque, peut-être d'avoir des campagnes où on donne des masques gratuits à certains endroits. C'est la même chose à Cannes, sur les marchés de la ville de Cannes. Ils sont en train de tester le même genre de technologie. Et puis aussi, à l'entrée des entreprises, il faut préciser qu'à l'entrée des entreprises, l'employeur ne peut pas obliger le salarié à prendre sa température. En revanche, il peut le recommander. Non, il peut le recommander.
Il n'y
a, pas d'obligation.
Ah bah ici.
Oui, on nous demande de prendre la température.
Absolument. On peut dire non.
En théorie, on peut dire.
Remarquez, pourquoi dire non?
Oui, c'est ça, il n'y a pas de.
Oui, franchement.
Alors, et pour les caméras, alors s'il y a un truc.
Caméra, c'est plus gênant.
Vous avez un
tout
truc. Pour la caméra, si vous voulez refuser de faire partie de l'expérience, il faut le savoir. Hein. Il faut, quand vous passez devant la caméra, il faut faire non de la tête.
Et
non,
d'accord. Mais enfin, vous êtes reconnu quand même.
Encore faut-il voir la caméra. Oui. Enfin, bon,
c'est
un petit truc à savoir, disons.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Anthony. Il est 6h57. Nous sommes avec Emma. Je prendrai Paulette tout à l'heure. Paulette, qui a été. Qui nous dira que dans sa commune de la Vienne, on a été très touchés par le coronavirus. Emma est là avec nous. Bonjour Emma.
Bonjour.
La Seine-et-Marne, Champs-sur-Marne, c'est cela?
Oui, c'est ça.
Bon, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, Emma?
Je regarde la télé.
Vous regardez la télé le matin, Emma. Le canal 24 de la TNT, RMC Découverte. Hein, exact, tous les matins. Ça fait longtemps d'ailleurs que vous regardez la télé, Emma?
Oui, ça fait longtemps.
Bon, vous êtes fidèle. Vous êtes récompensé ce matin parce que vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec, Emma.
J'en reviens pas. J'ai l'impression que c'est un rêve.
Bah, vous voyez, on est content que vous soyez avec nous.
Merci beaucoup.
Vraiment. Si on vous offre un peu de bonheur, un peu de joie, notre matinée est gagnée. Hein. Non, c'est pas compliqué. Hein.
Tous les matins, c'est gagné. Surtout avec le... Monsieur Charlemagne, le nounours, là.
Ah, Charlemagne, oui, il est génial,
le
Charlemagne.
Le sacré Charlemagne.
Non, Charlemagne, oui, mais enfin, bon, on va le surnommer Charlemagne.
C'est génial.
Emma, vous nous avez donné une idée. Où est passé Charlemagne? Il doit être dans les coulisses, là-bas. Bon, il va revenir, vous inquiétez pas, il va revenir. Il sera là tout à l'heure à 7h20. Merci, Emma.
Merci beaucoup.
On vous embrasse, c'est génial. C'est génial, la radio. Merci, il est 6h58, vous êtes sur RMC.